Bonjour. Ah oui, c'est très... déjà, merci beaucoup pour votre intervention qui est vraiment très intéressante. Justement, c'est un peu la question à l'inverse de celle que Malcolm a posée. Quels sont les enjeux pour vous de venir performer ici sur l'Hexagone face à un public majoritairement blanc? Quel est votre objectif et est-ce que vos performances auraient été pareilles, auraient eu le même discours si ça avait été à Haïti ou en Martinique ou en Guadeloupe?
Bah, c'est la question, la question en fait que moi je rêve, I have a dream, je rêve d'un monde où on est tous connectés, connectés au vivant pour tous recevoir la connaissance. Ça, c'est mon dream. C'est peut-être pas celui d'Olivier, c'est peut-être pas celui de Malcolm, ni de Charles ou de Sophie, mais moi, c'est mon dream. Donc, du coup, je pars du principe que le spectateur est émancipé. Ça, c'est aussi mon dream, même si peut-être je suis complètement à côté de la plaque. Et donc, du coup, ce que je vais incarner en termes performatifs, il est capable de le recevoir d'où qu'il vienne et qui il est. Moi, je reprends la très jolie phrase, et d'ailleurs, j'ai jamais rencontré ce monsieur, j'espère qu'un jour je le rencontrerai. Je fais un appel de Rachid Ouramdam, qui est chorégraphe français, et qui dit, moi, enfin, je sais pas comment il le dit, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu, c'est, j'aimerais te voir, quand je te rencontre, toi, qui es l'autre, j'aimerais te rencontrer et t'écouter, écouter ce que tu as à me dire, sans me demander d'où tu viens et qui tu es, mais juste t'écouter de qu'est-ce que tu as à dire, parce que pour moi, tu es un sentiment paysager. Donc là, on n'est plus sur la question de l'identité, de l'identitaire, etc. Et ça, cette phrase de Rachid Ouramdam, un jour, j'aimerais vraiment le rencontrer pour lui dire, mais c'est extraordinaire là ce que tu as dit. C'est extraordinaire. Et c'est en danse, comme par hasard, quoi. Sentiment paysager. Donc, du coup, je pars dans l'idée que nous tous qui sommes là, spectateurs comme acteurs, nous sommes tous des sentiments paysagers. Donc, du coup, on a tous cette capacité à recevoir la performance d'où qu'elle vienne, de qui elle est, en fait. Si nous-mêmes, on fait le travail d'être ancrés, de pouvoir incorporer, enfin, ça c'est mes termes à moi, mais incorporer la connaissance. Parce que pour moi, la performance, il y a une transmission de connaissances à travers la performance. C'est pas juste un process de création pour moi. Ça va au-delà, en fait. Moi, si je suis artiste, c'est une histoire de canal, c'est une histoire de mission, de transmission. C'est pas juste faire des dates, avoir des aides à la créa, faire des demandes de sub, faire mes cachets d'intermittence. En fait, sinon je serais pas là aujourd'hui, en fait. Je préfère rester chez moi avec mon fils, quoi, en Martinique. Tu vois? Donc du coup, je me dis, si tous ont fait le job, et je pense peut-être qu'elle est là, l'écologie décoloniale, si tous ont fait le job de retourner dans la forêt, de faire nos rituels, de se réintégrer, Malcolm Q, putain, de se réintégrer, de se réincorporer, de se re-embodied, tous à nos échelles, à nos niveaux, de tous aller voir le rebuteau du coin, etc. Si on fait on fait notre travail, parce que le job, c'est pas nous qui allons le faire à votre place, parce que déjà, nous, on a notre job à faire, et vous aussi, vous avez votre job, et après, on pourra retourner tous ensemble dans le cercle. Ça, c'est ma vision des choses. I have a dream.
Oui. Et du coup, pour répondre à la question des enjeux, en fait, de montrer notre travail à l'extérieur, par exemple, pour un public brestois, c'est aussi, en fait, de montrer que nous aussi, on a des choses à dire et à transmettre aussi. Par exemple, pour notre travail, le de nos maîtres mots, si je peux dire, en fait, c'est de qu'on parle depuis la Caraïbe, précisément d'Haïti, parce que c'est d'abord l'histoire d'Haïti qu'on met en scène à travers d'abord le film qu'on a fait, l'ouverture, mais ensuite dans The Wake, la performance qu'on présente dans le festival. En fait, on parle d'Haïti, mais on ne parle pas que d'Haïti. Parce que l'habitude, c'est d'abord, par exemple, quand tu es haïtien ou haïtienne, mais quand on t'invite sur un plateau, c'est de parler d'Haïti. Par exemple, pour le 12 janvier, je vais recevoir des invitations, venez parler du séisme et tout ça. Mais par exemple, pour des questions d'écologie, on va avoir rarement quelqu'un inviter un haïtien pour venir parler de l'écologie. Donc là aussi, on revient à la question de l'intrusion, en fait, de que nous aussi, en fait, on a des points de vue aussi sur la question de l'écologie. Donc il y a pas un point de vue, il y a pas quelqu'un qui peut dire oui, on va décider de ça par rapport à l'écologie. Mais nous aussi, les pays qu'on dit soi-disant des pays du Sud, des pays pauvres entre guillemets, et nous aussi on a nos points de vue. En fait, c'était ça l'un des enjeux. En fait, c'est de montrer que nous on pense aussi, on réfléchit à ces questions-là. En fait, c'est vrai qu'on a des questions un peu plus, comment dire, plus urgentes. Par exemple, la misère, des choses comme ça, ben, c'est une réalité. On peut pas faire l'économie de ça. Mais aussi se dire qu'on s'enferme pas, en fait. On peut aussi réfléchir à des questions que je peux dire universelles, en fait, ou mondiales. Parce que nous aussi, on a nos mots à dire aussi. On a des choses à transmettre, des connaissances que nous voulons transmettre aussi. Donc, pas simplement recevoir ou alors dire amen à tout ce qu'on nous donne, mais montrer aussi que nous aussi, on a des choses à donner, à dire, à transmettre. Donc, voilà, c'était l'un des enjeux pour montrer notre travail à l'extérieur, en fait. Pas que en Haïti, par exemple, faire un spectacle, le montrer seulement en Haïti, mais le montrer aussi à l'extérieur. Voilà.
Je crois qu'il y a d'autres questions. Peut-être il nous reste plus beaucoup de temps. Alors, ce que je propose, c'est que on prenne trois questions. S'il y en a trois.
Bonjour, merci beaucoup. Vous avez, Malcolm, Annabelle et Olivier, parlé de la réparation, mais un petit peu. Et je ne sais pas si on a le temps et je ne sais pas ce que seront les questions suivantes, mais je crois qu'Annabelle, on a plutôt compris ce que serait cette réparation. Mais je pose un peu la question plutôt à Malcolm, à partir de ce que vous avez relevé dans votre livre, ou voilà, enfin, est-ce qu'on peut développer cette question de la réparation?
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, bonsoir. Moi, je voulais parler concernant la question de l'enfermement, confinement, ou encore pays lock de chez nous. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Parce que, en tant qu'haïtienne, et comme beaucoup d'Haïtiens, comme moi, il y a cette question de l'enfermement que nous vivons au quotidien. Donc, la question du confinement, c'est pas nouveau pour nous. Parce que moi, je suis haïtienne, je suis de la génération 90. J'ai vécu mon premier enfermement, c'était en 2004. Donc, j'étais consciente de ça, c'était en 2004, lors du coup d'État de président Aristide. Donc là, c'était le premier. Donc ensuite, il y a eu beaucoup de situations où on était enfermé. Et le plus récent, avant le confinement, c'était en 2018, lors de la question pays lock, où la population demandait des comptes concernant un fonds qui avait été versé à, concernant la question de fonds par rapport à un pétrole qui a été versé à Haïti par le Venezuela, et la population voulait savoir où est passé cet argent. Donc ensuite, il y a eu la question du confinement que nous avons vécu ici. Donc, on était là pour le travail, on devait présenter. C'est là que The Week, il a commencé en 2019. Donc, on était venu ici pour présenter The Week. Donc, du coup, on a été obligés de confiner. Donc, il y a eu cette question de confinement. Tout le monde se plaignait par rapport au confinement. Donc, nous ne vivions pas ce confinement comme tout le monde, en fait, parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà vécu, cette question d'enfermement. Nous, ce qui nous dérangeait, en fait, c'était la question de ne pas pouvoir travailler, parce que c'est pour ça qu'on était venus. Mais du coup, on a pu entendre beaucoup de points de vue concernant cette question. Et il y a eu aussi la question de l'écologie. Il y a eu cette campagne pour l'écosystème, dire que le confinement c'était bénéfique pour l'écosystème parce qu'il y a eu moins d'émissions d'effets de gaz à effet de serre, tout ça. Donc du coup, on a une autre approche de ça, parce qu'en Haïti, on n'était pas en Haïti à cette époque. En Haïti, la population haïtienne a été obligée de suivre ce confinement. Et là, on ne peut pas parler de l'écologie comme on a parlé de l'écologie en France ou ailleurs. Parce qu'en Haïti, rester à la maison, ça veut dire mourir, en fait. Donc, du coup, on a été obligé de réfléchir à cette question du confinement par rapport à l'écologie et dire est-ce qu'on peut trouver un moyen de sauver la planète tous ensemble, pas seulement en Haïti ou en France ou autre part, sans se détruire en fait. Parce que c'est ça pour moi la préoccupation. Parce que me demander de rester chez moi pour protéger la planète, là je me détruis. Donc du coup, moi je voudrais savoir est-ce qu'il y a moyen de protéger cette planète tous ensemble, pas seulement en France, en Haïti ou chacun dans son coin, mais de tous parler de la question de l'écologie, de la protection de la planète, sans en fait qu'il y ait des victimes autre part, qu'il y ait des gens qui bénéficient de quelque chose autre part. Donc, est-ce qu'il y a moyen de parler de la planète ensemble, sans détruire quelques personnes à côté? Donc, c'est ma préoccupation.
Merci et désolé pour le petit détour. En fait, moi, j'ai pas de questions, mais je veux partager quelque chose. Alors, hier soir, j'ai fait un rêve, un vrai rêve. Et ce matin, au réveil, je me suis dit que peut-être que ça avait à voir avec, avec aujourd'hui. Et puis, j'ai entendu une fois quelqu'un dire que des fois, quand on a un rêve, on est capable de l'interpréter qu'au moment où l'on se retrouve dans une situation qui fait écho à ce rêve. Alors dans le rêve, c'était une course-poursuite. J'imagine qu'on partageait un peu tous ce rêve, qu'on peut aussi voir comme la course contre la montre. Et alors, j'ai croisé Bijou Mackinson, qui est à côté de moi. Et il m'a dit quelque chose, vite fait, il m'a peut-être transmis un secret comme ça que j'avais pas capté au départ. Mais bon, je suis pas resté là-dessus parce que, voilà, je devais absolument me fuir. Enfin, voilà, je devais courir et je courais. Au bout d'un moment, je me suis mise à dire à tout le monde que je les aimais. Je vous aime. Et tout à coup, il y avait plus d'obstacles, au fait. Tout à coup, et puis là, sans comprendre ce que voulait dire Bijou, je me suis retrouvé avec une connaissance, au fait, rien qu'en disant aux gens que je les aimais, et surtout sans obstacle, parce que j'étais libéré. Et voilà. Merci.
Je vais du coup rebondir sur plusieurs choses que j'ai entendues, dont les questions. Mais alors, elles viennent partir. Mais il y a une question tout à l'heure sur la question de la connaissance en fait à laquelle Olivier et Annabelle ont déjà répondu. Mais ce que j'aurais aussi voulu dire, c'est que ça balance aux Annabelle, c'est qu'il ne faut pas laisser la connaissance à l'école. Enfin, que ce ne font pas penser l'école et l'éducation institutionnelle comme le seul lieu de connaissance. Et je crois que voilà, le travail des artistes est aussi extrêmement extrêmement important. Et que bon, il est pas là, mais ce que j'aurais aimé répondre et poser, c'est parce que elle disait connaître plus sur l'enjeu de la guerre en Ukraine en ce moment que sur sa propre histoire. Et premièrement, ce n'est pas un problème en fait de connaître ou de se renseigner sur ce qui se passe dans le reste du monde. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que certaines histoires vont être réduites au silence. Donc il y a un très bon livre de Michel Rovtruyo qui s'appelle Silencing the Past. Voilà, mise en scène entre autres par Alupec dans son documentaire. Certaines histoires vont être réduites au silence par rapport à d'autres. Et que cela, avant même la connaissance, il faut s'intéresser aux moyens, aux méthodes de production de la connaissance. Et c'est là qu'on va retrouver l'héritage de la colonisation. C'est là qu'on va retrouver ce qu'on appelle la colonialité du savoir. C'est-à-dire qu'il y a une façon de transmettre le savoir qui voit soit la connaissance, soit la dissocier du corps, soit faire en sorte que seulement certains types, même pas de connaissances d'information, vont passer. Et cela, c'est valable qu'on soit, par exemple, moi je parle pour la Martinique parce que c'est là que j'ai grandi, où finalement j'ai passé 15 ans de secondaire à être assis dans une salle. Et je me souviens que tout ce dont je me souviens de ces 15 ans, c'est le jour en seconde où on parlait, on s'est censé aborder en histoire le cours des décolonisations. Et j'attendais ce cours parce que j'avais des questions. Je me disais, mais je rêvais ce cours comme un espace où la parole se libère, où on pose des questions. Et en fait, bon, voilà, telle date, machin, Algérie, Congo, Indonésie, voilà. Et puis, j'ai passé 15 ans à ne pas lire à l'école une ligne de Césaire, une ligne de Fanon, de Chamoiseau, de Marescon, de Marie-Céline. Et en fait, on est dans ce qu'on appelle aussi une production d'ignorance, une production structurelle d'ignorance. C'est-à-dire que en fait, on a assigné et ça, on le voit à plein de niveaux, y compris au niveau de ce qu'on va penser comme connaissance ou comme savoir des peuples non européens, des peuples, cultures, philosophies, civilisations d'Afrique. J'ai passé 15 ans de secondaire, donc de l'école primaire, enfin de l'école maternelle au bac, sans connaître un seul penseur d'Afrique. Et il y a une singularité de cette situation qui est que nous sommes des peuples majoritairement, mais pas que majoritairement, afrodescendants, où la seule chose qu'on nous apprenne institutionnellement, et encore c'est minime, c'est que sur l'Afrique, c'est que l'Afrique aurait produit des esclaves. Donc on a Memorial Act, très bien, enfin, voilà. Mais quand même, on reste avec cette idée qu'il n'y a rien à savoir, il n'y a rien à apprendre. Et je crois que ça aussi, ça marque ici. Ça marque ici, en France hexagonale. Bon, ok, le mémorial de Nantes, mais quand même, un lieu autre où on peut avoir vraiment une véritable mémoire de ce qui s'est passé. Parce que comme on veut garder que le bon côté de la France qui aurait de manière unilatérale aboli l'esclavage, en fait, moi je trouve que c'est assez grave. Et donc du coup, ce que j'aurais répondu aussi à la dame, c'est que l'enjeu qu'il y a, par exemple pour moi, à m'adresser à différents publics, c'est aussi pour montrer que ce dont on parle n'est pas un exotisme. Parce qu'on peut se dire, oh là là, cette histoire, c'est dur, c'est grave. Non, mais qu'il y a des liens matériels, politiques, économiques qui nous lient, en fait, qui lient ces histoires avec l'ici, qui lient le là-bas, qui font que l'ici et le là-bas sont liés, parce que, bon, départ, c'est une même terre. Et donc, hier, je discutais avec Maïté, parce qu'il y a eu l'endroit où vous avez performé s'appelle, je ne vais pas dire de bêtises, la passerelle. Et Maïté me dit que la passerelle, en fait, c'était une ancienne mûrisserie, où il y avait des bananes. Et que, en fait, ça veut dire quoi? C'est parce que la banane est une culture coloniale qui a été mise en place au tournant du XXe siècle, avec pour seul but, de satisfaire le goût, et là je parle de la banane coloniale française, parce qu'il y a une histoire de la banane coloniale française, oui, bien sûr, le seul but était de satisfaire le palais des Français en Hexagone. Et qu'au départ, on a du coup transformé des espaces au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, sauf que bon, ça a été maintenu en Guadeloupe et en Martinique. Tout ça pour satisfaire. Et aujourd'hui, ou depuis 50 ans, la Martinique et la Guadeloupe sont contaminées en partie par une molécule qu'on appelle le chlordécone, mais en fait, il y a eu plein d'autres molécules cancérigènes, perturbateurs endocriniens et toxiques, il y en a plein d'autres. La question que j'ai envie de poser ici, aujourd'hui, c'est que vont faire celles et ceux qui ont bénéficié de la souffrance et de la des autres et de la destruction environnementale de certains écosystèmes. Quand je dis ça, ce n'est pas une invocation à la culpabilité, mais une invitation à la responsabilité. Et c'est là que le sens de la question de réparation est importante et qu'on peut imaginer différentes formes de réparation. Et derrière le mot réparation, moi je vois aussi, et je vais laisser Olivier et Annabelle discuter là-dessus, mais je vois deux choses. Je vois avant tout la question de justice. On a une loi qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité, passé notamment la loi dite Taubira-Delanoë, qui a enlevé l'article qui prévoyait des réparations. Or, à partir du moment où ce que je dis, c'est-à-dire oui, c'était un crime, etc., n'est conditionné à aucune action matérielle, ce que je dis n'a aucune valeur. Puisque ça ne change rien. Puisque ça ne m'impose rien comme action. Et il y a quelque chose, donc là je rejoins totalement Olivier, il y a quelque chose d'une réparation qui doit prendre des formes matérielles et financières si cela est nécessaire, enfin voilà, bien sûr. Mais il y a aussi une réparation qui va dans un projet dans la formulation de notre récit de ce qu'est la France. Parce que le problème avec ces candidats aujourd'hui, avec une certaine France aujourd'hui, c'est qu'on a une identité qui s'est forgée à partir de la déshumanisation de l'autre. Et je crois que ça a changé. On peut pas, et ça c'est extrêmement compliqué, mais ça a changé. Parce que sinon, je m'arrête bientôt, on peut pas comprendre pourquoi il y a encore des statues de personnes qui ont commis des crimes coloniaux, et tout d'un coup, dès qu'on veut les enlever, ça touche à quelque chose de l'identité. Bref, donc réparation bien sûr, et réparation aussi pour tisser un espace discursif commun, pour avoir un lieu, un espace où on se reconnaît une histoire commune et on doit discuter. Et je crois que par exemple même Felwine Sarr et Bénédicte Savoie, quand ils parlent des restitutions d'œuvres d'art qui ont eu lieu, c'est aussi cet élément discursif, ce moment où on se reconnaît, même si on n'est pas d'accord, on se reconnaît une scène commune, une scène du monde commun. Voilà.
Je crois que là.
Juste un. Non mais il est peut-être utile parce que c'est aussi pour. Parce que comme Annabelle, elle a poussé la positivité très loin et que moi, je suis pas capable d'aller aussi loin qu'elle, vraiment pas du tout. Je vais quand même dire ce que moi, je peux dire dans une perspective décoloniale de lutte. Alors moi, je parle de lutte aussi, il s'agit de politique aussi. C'est qu'au moins, en fait, la chose qu'on doit comprendre pour démarrer la réparation, c'est qu'on n'a pas été éduqués comme occidentaux, au contraire de ce qu'on croit, à l'égalité. Il faut qu'on soit conscient de ça, il faut qu'on l'avoue. En fait, on est une société où, en fait, et ça rejoint ce que vient de dire Malcolm, et ça, c'est pour moi fondamental comme point de départ. La réparation, c'est déjà tendre vers une égalité à laquelle on n'est pas habitué. Moi, je l'ai expérimenté en tant que penseur guadeloupéen dans une génération où on était très très peu, et je dois dire qu'aujourd'hui, il y a toute une génération de jeunes artistes, de jeunes penseurs, et moi, c'est très différent la situation aujourd'hui. Parce que tu vois, tu as des salles où il peut y avoir des gens qui viennent de la Guadeloupe, de la Martinique, des Antilles, c'est possible. Et moi, j'étais dans des amphithéâtres, devant des étudiants où la moitié de la salle est pas blanche. Donc ça, pour moi, c'est inédit. J'ai fait un parcours où on était tout seul, quoi. Et donc, où on passait pour des ingrats. Moi, plein de gens m'ont dit, Monsieur Marbeuf, c'est l'école française qui vous a éduqué et vous faites la guerre à la France. Vraiment, sans rire, hein. Et des gens très sérieux, quoi. Donc, on a une espèce de dette. C'est pas tes parents qui t'éduquent, c'est l'école française, tu vois. C'est nous, on est un peu séparés, quoi. Et donc ça, c'est important. Je pense que la question de la possibilité de parler comme on parle Malcolm, il faut qu'on s'avoue qu'on n'est pas habitué. On n'est pas habitué. Moi, je vois des enseignants qui me disent, oh, dans ma classe, les racisés, ils lèvent la main, ils disent, ils arrêtent le cours, c'est un scandale, on est dans la cancel culture. Ouais, mais tout ce discours sur le cancel culture, c'est notre manque d'habitude d'entendre des voix qu'on avait mis de côté. Donc, pour réparer, il faut déjà réparer nos capacités à l'égalité en sortant du mythe qu'on a de croire qu'on est une société habituée à l'égalité. On n'est pas habitué à l'égalité, qu'elle soit de genre, de race, de classe. Et ça, la réparation, on peut commencer par nous. Parce que, encore tout à l'heure, je le disais, si c'est pas un objet désirable pour la société française, on le fera pas. Si c'est la culpabilité qui nous guide, on ne le fera pas. Et c'est le moteur de quelqu'un comme Zemmour. Il se dit, de toute façon, les gens, si on les pointe, ils vont pas vouloir le faire. Donc on va à fond à l'inverse. Trump l'a fait avant lui et d'autres le feront encore. Donc la proposition de réparation, elle doit être généreuse. Elle doit dire on va être une société plus intéressante pour tout le monde. Parce que si tout le monde n'a pas quelque chose à y gagner à la réparation, et si c'est que de la dette, on va pas le faire. Donc ça, moi je pense que c'est important. Et dernière chose, quel est l'enjeu de venir jouer dans des publics majoritairement blancs? Ben d'abord en France, on joue pas devant que des publics majoritairement blancs. On a joué à Clichy-Montfermeil devant des collégiens ou des jeunes turcs, des jeunes kabyles. Ils ont déliré sur ce qu'on a proposé. Ils ont écrit des textes incroyables. Et moi, ma part de réparation, c'est redevenir notamment devant des jeunes, devant des classes, où ils se disent que tu peux pas faire ça si t'es pas blanc, en fait. Et donc, moi, ce que j'avais pas comme exemple sous les yeux, ma part de réparation, c'est de venir dire, ben, on peut parler aussi. Et ça, moi, j'ai pas eu ça, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Et donc, notre petit bout en tant qu'artiste, c'est juste des présences de dire, on peut parler. Et donc, vous aussi, vous pouvez parler. On peut parler, en fait, c'est la première étape. Et ça, je pense que c'est le tout début de quelque chose qui doit se réparer. Il faut faire un truc à son échelle. Mais un truc où on est conscient que, comme disait Malcolm et qu'on a tous dit, le ici est connecté avec un là-bas. Je ne peux pas réparer le ici si je veux ignorer ce qui se passe là-bas. Donc il y a une réparation qui doit être une scène où on se retrouve.
Merci. Je crois que là, il faut vraiment qu'on s'arrête. Je suis désolée. Stomach acid flow, hold without conformity, nipping at your nose, some trinity of atrocity has brought you to